marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
L'histoire nous aide à la vérité indispensable pour nous définir nous-mêmes par rapport à l'ensemble de l'histoire de l'humanité.
Je suis le poulet.
La France de Luc Moulet.
On confirme à l'instant que le cinéaste Luc Moulet a été assassiné en repérant les extérieurs de son film.
La mort, c'est très bien pour avoir un César. Ça va créer un scoop monstre. Je vais enfin vendre tous mes films. J'ai 30 films sur 33 qui sont pas encore passés à Arte.
Je suis Luc Moulet.
Je suis Luc Moulet.
C'est Luc Moulet, je vous dis bonjour déjà.
Bonjour.
Je fais quand même mon chapeau, on va respecter les rites. Il vous est arrivé de mettre en scène votre disparition pour faire parler de vous. Prudente, la SCAM, une grande société d'auteurs, vous a attribué cette année son prix Charles Brabant, dont on espère qu'il a été suffisamment doté pour vous rendre tranquille. Maintenant, je passe à la troisième personne. C'est que le succès de Luc Moulet, inscrit dans l'avenir, se trouve soumis à un moratoire, mais un vrai moratoire, hein, pas de ceux qu'on efface d'une heure à l'autre, un moratoire de 24 ans peut-être. Mais Luc Moulet est de toute façon un personnage à revenir par la fenêtre si on lui a indiqué la porte. Dès qu'on formule une loi, il la tourne, il tourne. Il a commencé très jeune au Cahier du cinéma. Mais ces articles, dont quelques-uns ont été réunis sous le titre « Pige choisie », n'avaient parfois qu'un lointain rapport avec la critique. D'ailleurs, on peut tout aussi bien dire que ces films ne se différencient pas toujours de ces articles critiques. Il a réalisé plusieurs longs-métrages, bien davantage de courts, des courts, toujours des courts. L'envie ne lui a cependant pas manqué de films de 7 heures, pourquoi pas, comme il y a des gigots. Il est tout à fait capable de faire des films sans géographie, mais on a dit qu'il était le professeur de géographie du cinéma français, comme Tavernier en serait, d'une autre façon, le professeur d'histoire. Le mot « marcheur » étant un peu dévalué, présentement, on dira qu'il a connu le pays chemin faisant. « Je suis un homme de jambes, pas un homme de mains », observe-t-il. Mais attention, il connaît si bien les cartes qu'il peut en dessiner de fausses qui s'avèrent plus justes que les vraies. En ces jours un peu tendus, on se souviendra de son film apparemment burlesque de 1995, où il suggérait de transférer la capitale à Infi, département de la Nièvre, 3400 habitants, deux fleurs dans le classement des villes fleuries. La sécurité y serait plus facile à assurer.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Bon, tout ça est à peu près juste, Luc Moulet.
Oui.
On me dit que vous répondez toujours sérieux comme un pape.
Effectivement, J'ai un côté sérieux en apparence, ce qui me permet de glisser des plaisanteries au détour de la phrase.
Mais on me dit aussi que vous ne répondez jamais aux questions, ou qu'au du moins vous vous en préoccupez pas du tout.
Non, je réponds quand même.
Quand même. C'est vrai que vous avez appris à lire les cartes de géographie, la carte Michelin, qui était l'équivalent de votre biberon, avant même de savoir lire.
Oui, c'est assez facile de lire les cartes. Et ça a précédé de quelques mois la lecture proprement dite.
Et alors, sur les cartes, vous repérez les courbes de niveau. Et on va essayer de vous situer géographiquement, peut-être votre lieu de formation pour commencer. Il y a un film de vous qui s'appelle La cabale des oursins. Alors les oursins, on pense toujours au bord de la mer. Vous n'êtes pas tellement un homme de bord de mer, hein.
Non, non.
Les oursins, pour vous, ce sont les petites hachures très fines qui permettent de figurer un terril, on va dire un terri, dans les zones minières du Nord, par exemple.
Effectivement, au point de vue définition des terrains, ceux qui faisaient les cartes étaient bien embêtés parce que c'était un paysage mouvant. Il pouvait augmenter en altitude au fur et à mesure des années.
Le terri.
Et donc, ils n'ont pas osé mettre des courbes de niveau parce que ça changeait tout le temps.
Alors, les terris ne sont plus ce qu'ils étaient quand vous tournez là-bas en 1992. C'est vrai que vous demandez à votre équipe de faire le chemin le plus raide, la montée la plus raide?
Non. Par contre, des fois, je prenais la montée la plus cachée parce que À l'époque, dans beaucoup d'endroits, il était interdit de monter sur les terris. Donc, il fallait prendre la voie raide où personne ne pensait qu'elle allait être empruntée.
Alors, une fois arrivé au sommet du terri.
Dans le nord de la France, il y a des terris formés par les déchets des anciennes mines. Un monde ignoré. Et pourtant, on n'exploite plus les mines depuis des années. Souvent, on ne trouve plus de chemin pour monter. Le terrain étant moins cher, les infrastructures modernes occupent les alentours. Nous n'avons trouvé qu'une carte postale avec terri. On les rase pour faire de grands ensembles. Pourquoi les terris m'intéressent-ils ? C'est que je suis en quelque sorte un enfant du charbon. Mon père vendait des habits pour charbonnier, tout noir, chaussettes noires, slip noir, mouchoir noir, pour éviter les taches. C'est avec ça qu'il a gagné de quoi m'élever. Et aujourd'hui, avec ce film, je rends au charbon ce que je lui dois.
Juste un point technique, parce que c'est très important pour vous. Vous êtes souvent le commentateur de vos films, mais selon la phase du terri d'où vous parlez, il y a des plans et des contre-plans. C'est la même voix, mais elle est entendue différemment.
Oui, et effectivement, suivant la situation, et puis des fois, enfin, surtout comme acteur, je fais des effets de voix, par exemple en me bouchant le nez comme ça, ou quand j'ai, en tant qu'acteur, plusieurs rôles à tenir.
Mais alors, dites-moi, là, on a une indication sur votre jeunesse. Vous seriez donc un enfant du Nord, mais je lis parfois, sous votre plume, que vous êtes un cinéaste anglais d'origine arabe.
Oui, tout ça est un peu inexact. En fait, c'est mes parents qui m'avaient fait croire que j'avais une origine arabe. Mais en fait, après des
vérifications.
Oui. L'ADN ça serait la Suisse du côté de Fribourg.
Ah, Moulet, c'est un nom suisse.
Oui.
D'accord. Vous êtes un homme à faire des vérifications, vous.
Bah, c'est ma fille qui a fait les vérifications pour moi.
Oui, parce que on dit souvent que vous êtes presque capable d'imaginer des régions qui n'existeraient pas exactement comme elles sont dans votre cinéma. Est-ce que c'est le cas des Alpes ? Alors, il faut qu'on en vienne aux Alpes, maintenant. Parce que ça, c'est la patrie rêvée, pas seulement parce que le nom de Moulet est suisse, de Luc Moulet.
J'ai une partie de ma famille du côté paternel qui était originaire des Alpes. Et j'ai été amené à connaître un peu tous les lieux des Alpes du Sud, sur lesquels j'avais fait un rapport quand j'avais 17 ans.
Vous avez été étudiant en géographie, et puis, je ne sais pas si vous y avez fait des vérifications, en tout cas, vous avez lu Raoul Blanchard, le grand géographe de Grenoble.
Oui, j'ai même parlé avec lui à l'issue d'un cours à Paris.
Il paraît que vous êtes un vrai montagnard. Bah, vous êtes venu avec, non pas une canne, mais une canne de ski.
Montagnard relativement, parce que j'ai jamais dépassé de très grande altitude. J'ai jamais atteint les 6000 mètres.
Oui, parce que vous avez peur de vous retourner derrière.
Pas parce que ça demande... Et effectivement, il y a une certaine crainte. Je suis allé jusqu'à 5008, mais jamais plus haut.
Dites-moi, les imbéciles ne font jamais de trekking, comme vous en avez fait.
Effectivement, le trekking, c'est une sorte de civilisation. On rencontre des gens de toute nationalité. Et on peut s'apprécier. C'est des gens qui, souvent... avance posément, quoique, bon, il y a des excès, il y a des records de vitesse, mais c'est moins rare, c'est plus rare que dans les autres activités sportives ou parasportives.
Dans le milieu du cinéma, on parle souvent de la politique des auteurs. Et vous, vous êtes partisan de la politique des...
auteurs. Mais pour faire un jeu de mots de plus.
On ne peut pas bien filmer les acteurs si on ne sait pas bien filmer la montagne.
C'est Ernst Lubitsch qui avait dit ça parce que pour lui, c'était difficile de filmer la montagne, qui était quelque chose qui n'intéressait pas les gens. Et il avait dit, si on arrive à filmer des montagnes qui n'apportent rien de spécialement passionnant, eh bien c'est qu'on peut tout filmer.
Alors vous avez une dilection pour une zone, nous sommes ici dans les Alpes de Provence, qui s'appelle Majastre, qui est décrite par Giono. Vous avez tourné une première fois, puis la voiture du tournage s'est enlisée, et vous avez eu l'idée de revenir une seconde fois pour un autre film. Peut-être que celui qui est le dépanneur professionnel du coin, il creuserait pas des trous. Vous savez comme on en fait à Asnières pour que... les vélos s'effondrent.
C'est moi qui l'ai imaginé, mais comme j'avais eu le récit plusieurs années après cette première expérience d'enlisement comparable, je me suis dit que peut-être ça pouvait exister.
Un extrait très cher, je veux dire que c'est le film le plus coûteux de Luc Moulet, ça s'appelle « Les naufragés de la D-17 ». Nous sommes donc du côté de... Majastre, soit un acteur, parce qu'il y a un grand acteur dans ce film, c'est Patrick Bouchitet. Il interprète un homme dont la voiture s'enlise à l'endroit problématique déjà désigné.
Pas très loin de la Côte d'Azur se trouve une région insolite, le bloc de Majastre. Le bruit des autos y est plus rare que celui des avions. Il s'agit d'une vallée fermée par des gorges obscures. 1000 habitants sous Napoléon, moins de 100 aujourd'hui. Majastre, c'est la mauvaise âtre, la mauvaise terre.
Ça va être temps dans la mer, Ruche.
Tiens, 10 heures. Un peu tôt pour le facteur.
Qui ça pourrait être d'autre?
Le père Rouy, peut-être.
Non, il revient de Marseille que mardi.
Qu'est-ce que ça peut bien être?
Oh, des gens du Nord, pour sûr.
Et ça y est, le piège, l'enlisement, Patrick Bouchitet doit mettre pied à terre.
Monsieur, je suis désolé. Vous pourriez me sortir de là?
Je suis sûr que vous êtes du Nord.
Non, je suis de Lyon.
Ouais, c'est bien ce que je disais.
Écoutez, je suis pressé, je dois aller à un conseil d'administration demain. Je dirige le centre européen de recherche.
Ah! J'en tiens un. Vous voudriez que je travaille pour un quai de l'Europe? Vous les avez vus, mes vaches, avec vos quotas?
Mais qu'est-ce qu'il me fait, là? Mais j'ai rien à voir avec les vaches, moi. On fait de la recherche pour le futur. Et ça servira pas avant 2100, hein. Ça, je vous le jure. Mais avec ce que ça coûte, l'Europe, on pourra l'attendre, hein. Monsieur, je vous en supplie. Bon, alors je vous fais un chèque.
Mais vous foutez de moi? C'est du liquide ou rien?
Mais j'ai jamais de liquide sur moi. Putain...
Mais c'est un coup d'œil de génie que vous avez eu là. Le mot européen, ça déclenche, 2002, les réactions qu'on a entendues.
Oui, dans le monde paysan, il y avait souvent des oppositions systématiques à l'Europe, avec les quotas laitiers et divers autres quotas.
Comment faites-vous vos observations et comment les écrivez-vous après? Je me suis laissé dire, encore, que vous aviez des petits bouts de papier, des feuilles découpées en quatre, avec des notes ici, là, ailleurs.
Je note des points intéressants et je les développe un peu. Donc, mes films, c'est un alignement de divers points. Ça manque un peu d'unité, mais... c'est une suite de points saillants et amusants.
Ah, ça manque un peu d'unité. Alors là, vous me tendez une perche. Jean Tullard, le dictionnaire du cinéma français. On peut pas prendre ses films au sérieux, il travaille pas assez. Et vous-même, il vous arrive, dans notre Alpin quotidien, un beau titre ça aussi, de dire « je suis fumiste ».
C'est toujours bien de déclarer qu'on est fumiste. Donc on... de ne pas être trop cabochard.
Mais quand même, on va passer un extrait d'un film court, là, beaucoup moins ambitieux au point de vue financier que Les Naufragés de la D-17. Vous me dites que ça a été tourné en une semaine. C'est quand votre femme est absente, vous tournez un film ?
Non, j'y pense.
Pendant qu'elle est absente ?
C'est cela, oui. Non, Les Naufragés de la D-17 a été tourné en 5 ou 6 semaines.
Oui, mais maintenant, L'Empire de Médor.
Oui, c'est la différence du métrage, ça faisait 13 minutes. C'est assez commun de tourner un film de 13 minutes en une semaine.
Oui, on va pas continuer à parler chiffres, encore qu'un géographe, ça doit penser aux chiffres, faire des rapprochements, observer aussi les productions. Le ton préparé à Dakar, où il a été pêché et mis en boîte à Dakar, s'appelle le pêcheur breton.
Ça s'appelle Pêcheur de France, effectivement, et il y a une tête typique de pêcheur breton.
Oui, parce que je parle du Sénégal à dessein, parce qu'il est cité dans l'Empire de Médor.
En France, les ventes de fournitures pour chiens dépassent le produit intérieur brut du Sénégal. Le chien a son grand prêtre, sa presse, une littérature de droite. Dans ce journal, une page toutou et 10 lignes pour les morts de Soweto. Mais le chien réconcilie les politiciens de tout poil. En France, 8 millions de moins de 10 ans et autant de chiens. Plus servile, le chien prend l'avantage. Déçu par les humains, jamais par mon chien. 500 000 morsures par an. En Aveyron, un homme tué par morsure. À Avignon, 1 mois d'hôpital pour un enfant mordu. À Cormeil, un bébé mordu 30 fois. En Ardèche, un chien appuie sur la gâchette et tue son maître.
Mon meilleur ami est un chien. On peut lui parler, mais il ne vous répondra pas. Il aurait préféré avoir une femme comme amie. Une femme attentive, belle et sûre, qui travaillerait dans l'éducation nationale. Ils auraient des regards que nous n'avons pas, que nous n'avons plus. Et ils parleraient d'amour et de choses inouïes.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun. Sur France Inter.
La France de Luc Moulet, le cinéaste, aujourd'hui. Dans vos films, Luc Moulet, vous dites parfois « je fais ce que je veux ». Alors nous, on a rajouté un peu de Philippe Catherine à l'Empire de Médor. Vous n'êtes pas radicalement contre ?
Non, on avait des relations amicales.
Dites-moi les chiffres, c'est très important. La France de Luc Moulet doit être observée aussi du point de vue du nombre des animaux domestiques. Je crois qu'il y a un petit peu moins de chiens qu'à l'époque où vous avez tourné le film, en 86. Il y a 2 fois plus de chats que de chiens. Et Alain Raymond, dans La Croix, dit qu'il y a beaucoup plus de poissons rouges que de chats. Est-ce que ça signifie que les Français tournent en rond ?
Un petit peu, oui, effectivement. Il s'intéresse à des animaux d'agrément plus qu'à autre chose.
Et vous aviez une proximité plus grande dans vos Alpes, par exemple, pour les vaches ?
Non, pas exactement, parce que ce ne sont pas des Alpes à vaches.
Ah,
elles seront
mouton.
Assez pauvres et c'est plus le mouton.
Et il y en a dans le film, des moutons ?
On en voit parfois, oui.
C'est difficile à diriger.
Oui, les vaches, c'est beaucoup plus facile parce qu'elles sont lourdes, elles se déplacent peu, elles vont pas bouger d'une manière qui contrarie les changements de plan.
Mais les plans, c'est assez simple chez vous, non ? Il n'y a jamais de travelling, quasiment pas.
Si, il y a quelques travelling et des panoramiques, oui. Ou des travelling avec voiture.
Alors on va raconter maintenant le tournage de La France capitale infie. On resituera un fil en son temps. C'est un film de 1995. Alors, qu'est-ce que c'est une production de Luc Moulet? Parce que dans les instances du cinéma, on dit c'est beaucoup mieux Luc Moulet quand il fait avec des bouts de ficelle.
Ben, j'ai presque toujours fait mes films avec des bouts de ficelle, mais on m'a donc catalogué comme Moulet bout de ficelle.
Et là, vous avez une voiture, pas plus. Il faut mettre le matériel dans la voiture et le nombre de personnes qui sont engagées dans le film dépend de la capacité de la voiture.
Pour les courts-métrages, mais des fois il est bien d'avoir une voiture à l'appui, parce que si la première a une panne ou s'il faut aller chercher quelque chose, dans la terre de la folie, j'avais une deuxième voiture.
Oui. Alors là, la voiture suffit à peine à faire venir sur le lieu de tournage votre femme, Antonietta Pizzorno, qui souvent apparaît dans vos films, et puis apparaît de manière présente, voire avec autorité. La voiture s'en va, elle s'ébranle, et quitte Paris, parce que au fond, l'objectif, c'est de replier la voilure, quoi, et de s'installer dans un endroit où la sécurité pourrait être maintenue.
Paris, cancer de la France. Avec la banlieue, 9 millions d'habitants, un Français sur 6. En 1200, Paris était au centre de la France. Place logique pour une capitale. Aujourd'hui, la situation est toute différente. Paris est devenue une ville excentrique. Ville très humide, froide et sans soleil. Il faut mettre la capitale au centre de la France à un fil.
Bah, un fille, moi je trouve que c'est parfait parce qu'il y a plein de place. Le Sénat, on va le mettre là.
C'est humide ici, c'est humide. Mais je n'ai marre d'être dans des... Oh, j'ai froid aux pieds. Écoute, on est parti de Paris parce que c'est un lieu humide. Pour chercher quelque chose de mieux, on vient ici.
Oui, mais n'exagère pas, parce que c'est comme ça à première vue, ça a l'air humide, mais c'est pas si humide que ça. Tu vas voir, au bout de 4 ou 5 jours qu'on est là, on va s'habituer.
Mais il y a du brouillard partout, de la brume, je sais pas quoi, on n'y voit rien.
Ici, ce sera le ministère des Finances, au bord de l'eau, comme à Paris.
Là, bien sûr, on va mettre Canal+. Ici, je mettrai le ministère de l'Intérieur.
Ah, le ministère de l'Intérieur, il faut y penser par priorité. Un fil dans la Nièvre, comment êtes-vous arrivé là-bas?
Eh bien, j'y suis arrivé en auto. En fait,
oui, d'accord, mais...
c'était une fausse piste. Je donnais un fil capitale de la France, alors que j'analysais pas la possibilité d'un fil comme capitale.
Ah, on va voir
pour faire une sorte de suspense.
On va voir
où sera la capitale.
On va voir où votre quête vous mène. Vous utilisez souvent des noms dissimulés, parce que dans un autre film, vous tournez froid, et puis pour avoir de l'argent du Centre National de la Cinématographie, vous grattez le numéro de l'Ariège, et puis vous dites, mon film, ça va s'appeler Vesoul.
Oui, je voulais pas que ça se sache avant que je tournerai à Foix, parce que je craignais d'avoir des retombées négatives.
Et un fil, qu'est-ce qu'ils ont pensé de la présentation que vous faisiez de la ville?
Je sais pas la présentation de la ville, c'est simplement un titre, parce qu'il fallait quelque chose qui rime avec Paris.
D'accord,
Paris,
mais
un fil.
C'est pas très aimable ce que dit Antonietta. C'est humide.
En fait, ce qu'on montrait, c'était pas un fil. Là, c'était à Avord, qui était près de Bourges.
D'accord. Enfin, donc
c'était une fausse piste.
Les cartes du géographe Luc Moulet sont toujours biaisées. Oui, parce que Antonietta, elle veut aller beaucoup plus au sud.
Mais c'est la Méditerranée là-bas. Et si on continue comme ça, on va se retrouver avec une capitale en Corse. J'aime beaucoup ici. C'est très bien. Oh là là.
Ce qui m'inquiète, c'est l'eau. Il n'y a pas d'eau ici. Il va y avoir 300 000 habitants et il faudra vraiment beaucoup de flotte. Et je ne sais vraiment pas d'où la faire venir.
Il faut trouver des solutions originales, style baignoire collective. Oh, ça permettrait, écoute, les gens se rencontrent. Ah, c'est bien. Et puis, Puis il n'y aurait pas de problème pour les voitures, le lavage des voitures, il n'y aurait pas de voiture. Hein.
Ah ben tu penses, avec des hauts fonctionnaires, hein, la tête qu'ils vont faire. Non, le hic, c'est que ben, dans le nord, ça va bien, il y a plein d'eau, mais c'est humide et froid, donc il y a plus de dépenses d'énergie. Et tandis qu'ici, effectivement, il y a moins de dépenses d'énergie, mais il n'y a plus d'eau. On n'en sort pas.
On n'en sort pas, surtout que je ne sais pas du tout où on est là. Où est-on là finalement? C'est la dernière capitale, Homla?
Oui, Homla. Mais
c'est près. Où ça?
C'est près de Montpellier.
C'est trop près de la mer pour vous ça?
Oui, enfin la mer est à 15-20 km.
Ouais.
Mais comme c'est une fiction, je pouvais me permettre cette plaisanterie.
Mais c'est pas cohérent votre histoire. Vous dites Paris avait un rôle central quand c'était la capitale du domaine royal. Il ne faut pas de capitale excentrique et maintenant vous voulez aller près de Montpellier et Antonietta est volée en Corse.
Non, elle imagine la Corse, mais l'idée c'était pour contrebalancer l'influence de Paris qui est au nord. On prendrait cette fois une capitale au sud.
Ah, c'est donc une bicapitale.
Oui.
Au fond, est-ce que vous diriez ça? Le cinéma est difficile à rassembler. Vous dites, je ne suis pas un cinéaste, je suis un nanéaste. J'essaye de faire un. Mais on parle de la France, là, aujourd'hui. C'est très difficile de mettre ensemble la France.
Oui, parce que c'est surtout une accumulation de régions très, très différentes. Il y a un point commun qui est la langue, enfin qui devient beaucoup moins un point commun aujourd'hui parce qu'il y a d'autres langues qui se parlent fréquemment en France. Donc c'est une relation quand même assez artificielle que de mettre sous le même coup Dunkerque et Ajaccio.
Comment vous dites ?
Ajaccio.
Et quand vous dites western?
Western.
Ah. Vous utilisez le mot politicien. Il faut des hommes politiques en France. C'est pas la même chose.
Disons que on peut dire un homme politique, mais souvent il y a le mot politicien qui a souvent une consonance négative. Pas forcément, mais c'est fréquent.
Vos hommes politiques préférés? Je sais que vous hésitez à parler politique parce que vous avez des expériences familiales difficiles dans ce domaine, mais tentons, vos hommes politiques préférés, Luc Moulet.
Oui, j'avais cité Sully, Colbert, encore qu'il y a des choses assez obscures et un peu sinistres chez Colbert, Fleury et...
Le cardinal de Fleury au XVIIIe siècle.
Oui, et Jospin.
Et Jospin. Mais aucun d'eux n'a été chef de l'État.
Non, mais souvent, c'était le Premier ministre qui comptait le plus. D'ailleurs, entre 1870 et 1958, le chef d'État n'avait qu'un rôle assez réduit.
Bon, on commence à deviner certaines préférences politiques. 4 DVD chez Blackout, c'est un nom prédestiné. Ce sont les DVD de Luc Moulet, puis on peut trouver ses livres, notamment chez Capricci, et puis aussi au Cahier du cinéma. Martin Cellier, Frédéric Martin, Antoine Teboul à la technique, Audrey Ripouille à la réalisation. Et chez vous, Mathieu Vidard?
Eh bien, 3 mots, le Téléthon, la chance et l'univers pour nous réunir dans le club de la tête au carré dans un instant.
Dans un instant, donc, la tête au carré. Le Téléthon est un peu éclipsé cette année. Ça en dit long, d'ailleurs, sur l'état du pays.